Si la tendance de la micro-aventure a le vent en poupe, c'est parce qu'enchanter le quotidien, c'est facile et à la portée de tout le monde. Thomas Serramour, accompagnateur en montagne, dans les Alpes, et micro-aventurier, nous initie à cette pratique. Vous avez une question ?
On a la réponse.
Vous écoutez Conseil Sport, le podcast Bien-être, Santé, Nutrition de Décathlon. Bonjour Thomas.
Bonjour Céciliane.
Merci de m'accorder ce temps. Alors toi, la nature, les randos, l'inconnu, c'est ton truc. C'est même devenu ton métier. Tu pourras nous en parler davantage d'ailleurs dans cet épisode. Et tu vas même nous donner des tips pour pouvoir profiter des bienfaits de s'aérer l'esprit. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir, quand on dit micro-aventure, en réalité, de quoi on parle ? C'est quoi la micro-aventure ? C'est un mot tendance maintenant.
Ouais, carrément. Pour moi, la micro-aventure, c'est découvrir ou redécouvrir son territoire près de chez soi. Ça peut être sur une journée ou bien sur plusieurs jours et à travers une activité outdoor. Ça peut être de la rando, du vélo, de l'escalade, du canoë. Il y a plein de choses à faire dehors et on prend jamais assez le temps en fait de découvrir tout simplement ce qu'il y a à 2 heures de chez nous, par exemple. Et ouais, on a déjà plein de choses à faire.
Mais oui, en général, on se dit, puis ça dépend aussi de la région dans laquelle on vit.
Oui,
par exemple, enfin, il y a des régions qui sont plus propices, en tout cas, à aller randonner, ou en tout cas, on a l'impression dans notre imaginaire collectif que, par exemple, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de rando à faire, et peut-être qu'on se trompe. Je parle du Nord parce que j'y suis, mais alors toi, t'es dans quelle région d'ailleurs ?
Moi, je suis basé en Isère, à côté de Grenoble.
Oui.
Et du coup, effectivement, les massifs environnants sont plus propices à la rando.
C'est vrai. Donc toi, c'est davantage des micro-aventures rando que tu testes, que tu proposes aussi à ta clientèle. C'est plutôt
c'est
de
ça.
La randonnée.
En fait, de base, je suis passionné de montagne et principalement de randonnée, de trek, donc de la randonnée sur plusieurs jours. Et en plus de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'en ai fait mon métier. C'est-à-dire que je suis accompagnateur en montagne et je propose des journées, des séjours et notamment des micro-aventures sur plusieurs jours en bivouac, en montagne, dans les massifs autour de Grenoble, la Chartreuse, le Vercors ou encore Belledonne. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre une aventure intense et qu'on retourne chez soi avec une sensation de voyage. Je pense que, en fait, on peut vraiment passer 2-3 jours en nature et avoir cette même sensation qu'après avoir passé 2 semaines, peut-être un peu plus loin, en Europe ou ailleurs.
En fait, il faudrait un Thomas dans chaque région pour essayer d'accompagner les personnes, qu'elles puissent découvrir aussi ce qui se passe à 2 heures de chez eux, quoi.
C'est ça. Et puis, tu vois, tu parlais du Nord et qui c'est pas vraiment propice à la rando. En réalité, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et à observer. Ça peut très bien être aussi aller observer de la faune sauvage.
Oui.
Et je pense qu'il y a des choses qui sont bien différentes de la région grenobloise et des montagnes. Il va y avoir peut-être potentiellement plus de zones humides ou autres. Et dans ce cas-là, il y a plein de choses aussi à faire et à voir.
Chaque région a ses trésors.
C'est ça.
Donc si on veut se lancer dans une micro-aventure, peu importe la région dans laquelle on habite, à quoi faut-il penser pour partir à l'aventure, par exemple, un week-end ? Est-ce que ça se prépare ? Est-ce qu'on peut être très spontané ou est-ce qu'il faut penser à des choses clés ? Et si oui, lesquelles ?
Alors, ça se prépare, oui, effectivement. Après, moi, je pense qu'il y a deux façons de partir, deux façons de voyager. Il y a une façon où, d'une part, on va tout préparer en amont, et puis on va faire ensuite avec la météo, c'est-à-dire que si la météo est bonne, eh ben on valide notre projet et on y va. Et si la météo est pas bonne, eh ben on fait un plan B ou bien on annule. Et il y a aussi une autre façon de voyager, ça va être en fait tout simplement de se laisser guider par la météo jusqu'au dernier moment, se laisser guider par nos envies aussi. Savoir de quoi on a envie à l'instant T. Est-ce que j'ai envie de partir randonner pendant 2 jours, ou bien j'ai envie de partir finalement à vélo, j'ai envie de me motiver d'apprendre ou de découvrir l'escalade. En fait, oui, j'aime bien me laisser le choix, c'est-à-dire j'aime bien créer la micro-aventure en fonction de la météo, en fonction de mes envies, et ensuite ça peut être du coup partir en randonnée, à vélo, sur un jour, 2 jours, 3 jours peut-être, et j'aime bien aussi faire en fonction des saisons. C'est-à-dire que au printemps et à l'automne, tu vas voir des choses différentes sur un même lieu. Bah tout simplement, ça peut être aussi repartir à un endroit qu'on a déjà vu, qu'on a déjà visité et qu'on a apprécié, et pour autant y retourner pour voir ce que ça donne en fait à l'automne en changeant de saison. Et ça, c'est chouette aussi parce que du coup, on se rend vraiment compte de la nature qui change, qui évolue. Et tout simplement, on voit autre chose, en fait.
J'ai aussi l'impression que la micro-aventure, c'est un peu une philosophie de vie, une autre perception du temps qui s'écoule et de la façon de s'écouter. Tu parlais de savoir ce qu'on a envie, d'écouter la météo. J'ai la sensation que ça va avec la reconnexion à soi et à la nature.
Ouais, complètement. En fait, moi, j'aime vraiment passer du temps dehors. Ça me permet de, bah justement, de reconnecter à l'instant présent. Et en nature, on n'est jamais déçu et on est vite distrait, que ce soit par le paysage et tout ce qui s'y passe en fait. Et passer une journée dehors, c'est chouette. Mais alors, quand on peut passer 2-3 jours et un week-end en entier, c'est encore plus chouette. Et on a vraiment l'impression de vivre une aventure plus longue, tout en étant finalement à côté de chez soi. Et ça, c'est trop bien.
Dans les choses qu'il faut préparer, moi je retiens qu'il y a plusieurs façons de faire. Soit on se fait un plan, la météo idéale, un plan B, la météo ne suit pas. Soit on s'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment clés et factuelles dont on doit faire attention ou anticiper quand on veut partir comme ça un week-end ou 3 jours?
Complètement. Tout à l'heure, on parlait de se laisser le choix et d'avoir 2 possibilités, soit préparer sa micro-aventure en amont, soit la préparer un peu à la dernière minute. Même en la préparant à la dernière minute, il faut quand même bah, du coup se renseigner sur la météo, comme tu l'as dit, sur le parcours qu'on souhaite faire, sa difficulté, est-ce qu'on a vraiment envie de se mettre plutôt un challenge ou plutôt de partir en mode découverte en prenant le temps. Et après, ça dépend aussi si on part seul ou en groupe. Si on part seul, bon bah c'est simple. Hein. Et si on part en groupe, bah faut prendre en considération tout le monde pour que bah tout le monde puisse y trouver son compte et profiter du week-end. Et ce qui est intéressant aussi en randonnée, en trek, c'est-à-dire que si on apprend à lire une carte hygiène, et bah tout simplement on apprend à lire et comprendre le terrain. Et ensuite, on peut mieux s'adapter à nos envies. Si on a envie d'aller faire un sommet, eh ben, il faut comprendre comment sont notés les sommets sur la carte. Si ça va plutôt être des pierriers ou bien un sommet avec un terrain avec des pelouses ou autre. Mmh. Et tout ça, ça va nous permettre en fait vraiment d'adapter à nos envies. Et encore une fois, bah, c'est la clé pour profiter pleinement du week-end.
Comment on choisit son lieu de micro-aventure? Comment on choisit ses activités? Comment toi, en fait, tu t'y prends pour faire un week-end de détente près de chez toi?
Bah, je vais d'abord regarder en fait comment je vais y aller.
Oui.
Et si je souhaite y aller en transport en commun, eh bah du coup, il va falloir que je trouve un endroit qui est desservi en transport en commun. Ou bien ça peut être en covoiturage. Et puis ça peut être une traversée. Ça dépend si c'est une traversée effectivement ou une boucle. Il y a tous ces paramètres à prendre en compte et voir comment on peut gérer du coup le transport pour aller au point de départ de notre micro aventure. Et puis revenir depuis le point d'arrivée. En fait.
D'accord.
Et ensuite, ça va dépendre vraiment de l'activité. Une randonnée au mois d'avril, par exemple, ou même au mois de mai, je ne vais pas aller à 2000-2500 mètres d'altitude, parce que tout simplement, je vais être confronté à la neige. Donc, je vais aller chercher des randos qui sont plus basses. Une altitude, ça va être sur les massifs de la Chartreuse, sur les massifs du Vercors, les Vosges, tous les massifs des Préalpes, en fait, qui sont rarement au-dessus de 2000-2500 mètres d'altitude, tout en restant sympa pour la rando. Et après, bah, ça dépend aussi si on souhaite faire de l'escalade ou du vélo. Enfin, il y a tellement de choses à faire qu'ensuite, chaque lieu est plus ou moins propice à toutes ces activités.
Vélo, escalade, rando, on va dire que c'est les plus classiques, mais on pourrait aller jusqu'à faire du paddle ou peut-être partir avec sa planche de surf quand on est plus du côté de la mer. Enfin, la micro-aventure, c'est très large quand même, on est d'accord? Je me trompe pas en disant ça?
C'est très large et puis aussi, on peut varier les activités. Moi, ça fait un petit moment que je fais du parapente et je commence à combiner du coup le parapente
et
avec d'autres activités comme bah, la rando ou l'alpinisme et tout ça, ça permet de encore une fois de réinventer la sortie qu'on a déjà faite et ça c'est trop bien.
Bah oui, c'est ça qui est intéressant dans la micro-aventure, c'est que ça repousse un petit peu les limites de ce qu'on peut faire normalement. Enfin, on s'autorise, j'ai l'impression, plus de choses. Partir là avec le sac de parapente, par exemple, en rando, ou partir avec... je sais qu'il y en a beaucoup qui font des randonnées aquatiques, de plus en plus. Donc maintenant, le cours d'eau ne t'arrête pas dans ton chemin. Au contraire, il va t'amener un peu plus loin. Donc c'est top, tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Pourquoi tu le recommandes? J'ai l'impression qu'il y a une approche quand même vachement... Une sensibilité de l'environnement?
Eh ben, En fait, depuis tout petit, je suis passionné de montagne. Et bah, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, j'en ai fait mon métier. Et comme je suis très souvent sur le terrain, en fait, on se rend vraiment compte de l'impact, des impacts que peut avoir le changement climatique. Il faut pas se le cacher, bah, c'est réel. On voit tout de suite, par exemple, ça peut être tout simplement les hivers qui sont moins rudes maintenant. Ça peut être la végétation qui arrive plus tôt. Ça peut être une faune qui n'arrive pas forcément à se nourrir à telle ou telle période, ou bien qui trouve davantage de nourriture à une période où elle n'en trouvait pas avant. On voit ces changements, et je pense que en comprenant le milieu dans lequel on évolue, et bah tout simplement, on a envie de le protéger derrière. Et pour minimiser son impact, tout simplement, c'est bien de se reconcentrer sur des aventures près de chez soi. Et en partant justement à 2 ou 3 heures de chez soi, et ben en fait, on peut partir loin sans pour autant avoir pris l'avion ou être parti 2 semaines. Et on a vraiment cette sensation de voyage quand on revient. Et ça, c'est trop bien. Ça a pas de prix.
Ben oui, mais moi j'aimerais que tu me parles de ces sensations de liberté. Est-ce que tu ressens cette liberté? Est-ce que même si t'es pas loin de chez toi, tu ressens la déconnexion dont on a besoin, la déconnexion du quotidien?
À chaque fois que je vais dehors, finalement, cette sensation, elle revient. Comme je te le disais tout à l'heure, on se reconnecte assez vite à l'instant présent quand on est dehors. Tout simplement parce que bah, souvent on fait une activité physique, donc on a cette concentration sur l'effort physique. On a aussi le fait que bah, on traverse des paysages et on traverse un environnement, donc on regarde ces paysages, on en profite parce qu'on n'est pas là tous les jours. Et en plus de ça, bah, on est vite amené à regarder à droite, à gauche, quelque chose qui nous surprend, ou on regarde un arbre, on regarde un oiseau, on écoute. Enfin, il y a tellement de choses qui font que ça nous ramène à l'instant T, à l'instant présent, que finalement, bah,
on déconnecte.
Oui, on déconnecte.
Moi, j'ai le mot émerveillement qui me vient, parce que c'est vrai que quand on prend les routes et qu'on ouvre nos yeux autrement, on s'émerveille comme des enfants, quoi. Je pense que pour se reconnecter à notre esprit d'enfant, ne pas hésiter à se lancer dans ce genre de micro-aventure, ça peut être sympa.
Ouais.
Et puis, nos régions sont belles, faut le dire, oui, quand même. Malgré tout, peu importe où on habite.
Mais on a vraiment de la chance en France, on s'en rend pas forcément compte. Et moi, le premier qui suis passionné de montagne, j'ai traversé quand même pas mal de massifs dans les Alpes. Mais finalement, le massif central, je connais un peu, mais pas trop. Et les Pyrénées, j'y ai mis une seule fois les pieds. Et il faut se dire que les Pyrénées, c'est plus grand que les Alpes encore.
Ouais, ouais.
Que la partie des Alpes françaises, bien sûr.
Puis après, on a des voisins frontaliers, hein, tous ceux qui sont...
On a des voisins, et puis bah, c'est tout aussi bien aussi d'aller marcher en Bretagne, en Normandie, en Dordogne, dans le Périgord. On va peut-être pas aller marcher jusqu'à Lille sur les terrils, mais oui.
Et pourquoi pas?
Oui, tout est possible.
Super. Bah écoute, comment on peut faire pour te suivre? Si on habite dans ta région, par exemple, hein, si on s'est retrouvé dans les paysages dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut te suivre? Parce que tu proposes des micro-aventures.
Ouais, bien sûr. Moi, je propose essentiellement des bivouacs sur 2 ou 3 jours sur la région de Grenobloise. Donc autour de Grenoble, sur les massifs du Vercors, de la Chartreuse et de Belledonne. Vous pouvez me retrouver en fait sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, sous le nom de Thomas Trekking. Et j'ai également un site internet, du coup, qui s'appelle thomastrekking.fr.
Ok, bah je mets tout ça en description. Et si on n'habite pas dans ta région, qu'est-ce que tu dirais pour aider les personnes à trouver leur micro-aventure dans leur région? Est-ce que tu as des petits tips pour ça? Office de tourisme?
Ouais, c'est ça, ouais. On peut déjà se renseigner auprès de l'office de tourisme, regarder ce que la région aussi ou le département met en valeur comme activité. Si vous allez sur la côte ouest, bah forcément il y aura peut-être un peu moins de randonnées, mais il y a d'autres activités à faire différentes, et chaque région a en fait un peu ses spécialités, et c'est ça aussi qui fait la beauté de la France, c'est qu'on a plein de régions, plein de diversité, et donc potentiellement plein de choses à découvrir.
Ben, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire des micro-aventures que vous auriez faites et qui vous ont émerveillé. Merci beaucoup Thomas.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et si vous en voulez encore, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires. Je serai ravie d'y répondre.